VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 2 avril 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. L'évolution de la pandémie du Covid-19, plus de 950 000 cas dans le monde, dont près de 50 000 morts. Aux États-Unis, la barre des 5 000 morts a été franchie sur plus de 200 000 cas.
Tout a commencé vendredi soir. J'ai commencé à ressentir des maux de tête. Après, j'avais froid. Après, j'avais mal à la gorge et la fièvre montait.
Au Sénégal, le responsable de la lutte contre le coronavirus a indiqué qu'il va continuer à utiliser la chloroquine dans le traitement, alors que le débat scientifique fait rage sur la question. Dans le reste de l'actualité, cela fait un an que la rue forcée Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir en Algérie. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Algérie, il y a juste un an que la révolte populaire a forcé Abdelaziz Bouteflika à la démission après avoir annoncé son intention de briguer un cinquième mandat. L'ancien président a été sommé de quitter le pouvoir par un de ses proches, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée. Rétrospective avec Nathalie Barche.
Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, est nommé président intérimaire le 9 avril 2019. Puis le Conseil constitutionnel annule la présidentielle qui était prévue le 4 juillet. Début août, le général Ahmed Gaïd Salah juge que les revendications du Irak ont été satisfaites, mais les Algériens continuent de manifester chaque vendredi à Alger. Le 12 décembre, Abdelmadjine Tebboune, un proche de M. Bouteflika, remporte la présidentielle. Le lendemain, il invite le Irak au dialogue, mais les manifestants le conspuent. Le 29 décembre, le général Gaïd Salah meurt d'une crise cardiaque. Depuis le 20 mars, les rues d'Alger sont vides après l'interdiction des rassemblements pour lutter contre le coronavirus.
L'Afrique de plus en plus touchée par le coronavirus, l'OMS prévient que le continent doit se préparer au pire. Eric Manirakiza.
Le président togolais Faure Gnassingbé a décrété hier soir l'état d'urgence sanitaire entre 19h et 6h du matin. Tout rassemblement de plus de 100 personnes est interdit et un auto-isolement de 14 jours est obligatoire pour toute personne arrivant au Togo. Il a annoncé la création d'une unité spéciale anti-pandémie composée de 5000 agents des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement entend également prendre des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi à hauteur de 400 milliards de francs CFA. Le Rwanda a été l'un des premiers pays africains à ordonner un confinement complet pour 2 semaines et Kigali a annoncé la prolongation des restrictions jusqu'au 19 avril. L'Érythrée a ordonné un confinement de 21 jours à compter de ce jeudi. Les autorités de Sierra Leone ont décrété un confinement de 3 jours à partir de dimanche. Le FMI et le Sénégal se sont entendus pour une aide d'urgence de 221 millions de dollars afin de permettre au pays de faire face à l'impact économique de la pandémie. Les autorités sud-africaines ont modifié jeudi les règles du confinement pour permettre le rapatriement des étrangers. De même, citoyens et résidents permanents d'Afrique du Sud bloqués à l'étranger pourront rentrer chez eux. Enfin, les habitants de l'île Maurice, qui commençaient à manquer de provisions, se sont rués dans les supermarchés qui était fermé depuis 10 jours.
Au Sénégal, les services sanitaires sénégalais vont poursuivre le traitement par la chloroquine des patients atteints par le coronavirus. Selon le professeur Moussa Seydi, responsable de la lutte contre le Covid-19, ceux qui sont traités avec ce médicament guérissent plus vite. 195 personnes ont contracté la maladie. Une a été évacuée vers la France. 138 sont sous traitement et 55 sont guéris selon le ministère de la Santé. L'hydroxychloroquine, un dérivé synthétique de la quinine, est au cœur d'un débat vif d'experts entre ceux qui préconisent et ceux qui mettent en garde contre son utilisation contre le coronavirus. La crise humanitaire dans la région du Sahel menace de devenir ingérable avec plus de 5 millions de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire. Alors que le coronavirus se propage, selon le Programme alimentaire mondial, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 a illustré l'importance cruciale de l'aide alimentaire dans la lutte contre la propagation de la maladie, souligne le Programme alimentaire mondial dans un communiqué publié à Dakar. En plus, trois pays du Sahel sont le théâtre depuis des années d'attaques djihadistes, souvent mêlées à des violences intercommunautaires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Avec désormais plus de 215 000 cas, les États-Unis sont devenus l'épicentre de l'épidémie. La forte hausse du nombre de décès a obligé les autorités à commander 100 000 housses mortuaires. Les nouveaux chiffres du chômage ont fait plonger les marchés boursiers. Claire Mongibourg.
Avec plus de 500 000 cas, l'Europe reste le continent le plus touché, mais la propagation de la pandémie aux États-Unis s'accélère, ainsi que le nombre de décès, plus de 5 000 personnes aux USA. Les bilans sont très probablement en dessous de la réalité, faute de capacité suffisante de dépistage. Selon les projections de la Maison-Blanche, le Covid-19 devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis. Le Pentagone a annoncé avoir reçu une commande de l'État fédéral pour 100 000 housses mortuaires destinées aux agences de santé du pays. Les États-Unis se préparent à faire face à une phase encore plus dure et alors que 85% de la population américaine est confirmée, le département du travail a indiqué que les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont enregistré un nouveau record avec 6,6 millions de demandes, le double par rapport à la semaine précédente. Ces chiffres ont précipité les marchés européens dans le rouge et Wall Street a ouvert à la baisse.
Signalons que le gouvernement américain a renforcé la protection du docteur Anthony Fauci, l'épidémiologiste chargé de conseiller la Maison-Blanche sur le coronavirus, qui est la cible d'une virulente campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Le docteur Fauci, expert mondialement reconnu des maladies infectieuses, 79 ans, est devenu le visage scientifique de la réponse des États-Unis à la pandémie, apparaissant presque chaque jour aux conférences de presse du président Donald Trump à la Maison-Blanche. Toujours aux États-Unis, la convention du Parti démocrate a été reporté d'un mois jusqu'à la semaine du 17 août en raison de la pandémie du coronavirus. C'est lors de cette convention nationale que doit être désigné le candidat démocrate à la présidentielle américaine du 3 novembre face au président Donald Trump. L'événement qui devrait rassembler des milliers de participants est toutefois maintenu à Milwaukee dans le Wisconsin. Le coronavirus a contaminé près d'un million de personnes et fait plus de 50 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine, selon un bilan établi aujourd'hui. Jacques Aristide.
Plus de 500 000 cas ont été recensés en Europe, le continent le plus touché. Malgré des mesures de confinement de près d'un habitant de la planète sur deux, les bilans sont de plus en plus lourds. Plus de 13 000 morts en Italie, 10 000 en Espagne, plus de 4 000 en France. En Iran, autre pays très touché, le bilan a atteint 3 160 morts. Selon le président Hassan Rouhani, le pays pourrait être confronté à la maladie du Covid-19 jusqu'à mars de l'année prochaine. La Chine, elle, fait état de 3 318 décès, mais les États-Unis sont parvenus à la conclusion que Pékin a menti en sous-évaluant largement ces chiffres, selon un rapport confidentiel du renseignement américain évoqué par des élus qui estiment que le monde est en train de payer pour les erreurs de la Chine. Pékin rejette ces accusations, affirmant que l'Organisation mondiale de la santé défendait les données chinoises. Pékin est au cœur d'une autre polémique ce jeudi, après avoir donné son feu vert à un médicament à base de bile d'ours afin de traiter des malades du Covid-19. Pour sa part, le secrétaire général de l'OMS se dit profondément préoccupé. Tedros Adhanom Ghebreyesus dit ne pouvoir que constater la croissance quasi exponentielle du nombre de cas dans le monde.
L'Organisation mondiale de la santé a renouvelé son appel aux jeunes en réaffirmant qu'ils étaient aussi concernés par la pandémie de Covid-19 qui a fait des victimes parmi les enfants et les adolescents. L'idée selon laquelle le Covid-19 touche uniquement les personnes âgées est factuellement erronée, a rappelé le directeur général de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse hebdomadaire diffusée en ligne depuis Copenhague. En Europe, la plus jeune victime recensée est une enfant de 12 ans morte en Belgique. Et ici aux États-Unis, un bébé de 6 semaines contaminé par le coronavirus est également décédé. L'ONU veut réunir virtuellement les belligérants au Yémen et d'obtenir un cessez-le-feu pour prévenir une propagation du nouveau coronavirus. Les organisations humanitaires craignent une catastrophe si le pays est touché par le nouveau coronavirus. Le Yémen a déjà été frappé par des épidémies comme la dengue ou le choléra. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d'après diverses ONG et environ 24 millions de Yéménites, soit plus de 2/3 de la population, ont besoin d'aide humanitaire selon les Nations Unies. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanik Talani.
En Côte d'Ivoire, le trafic au port d'Abidjan devrait baisser en 2020 en raison du coronavirus. Selon son directeur Yen Sié, la fermeture de la Chine et de l'Europe et le couvre-feu sont les causes de ce ralentissement. Le port devrait produire 26 millions de tonnes cette année contre 25 millions en 2019. Poumon économique du pays, le port d'Abidjan représente 90% de ses échanges extérieurs. Il emploie près de 100 000 personnes et approvisionne aussi les pays enclavés de la sous-région. La croissance économique du Niger devrait baisser cette année à 4,1% contre 6,9% à cause du coronavirus. La baisse des recettes budgétaires devrait atteindre 89 milliards de francs CFA, a averti le ministre des Finances Mamadou Diop. Le ministre a aussi estimé à près de 600 milliards de francs CFA les besoins financiers pour soutenir l'économie et la population, sans préciser si l'État disposait de cette somme. Terminons par le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, qui demande aux législateurs d'autoriser son ministère à financer un programme de lutte contre le coronavirus avec 219 millions de dollars provenant du Fonds de stabilisation. Le Ghana a réduit sa prévision de croissance du PIB à 1,5% contre 6,8% en raison de la pandémie. Ce taux représente la pire performance de l'économie ghanéenne en près de 4 décennies.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Direction le Mali, où le monde du football s'implique dans la lutte contre le coronavirus à travers des dons à l'endroit de l'État. Les détails avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Le comité exécutif de la Fédération malienne de football a donné le ton. Il a offert le mardi 31 mars dernier un chèque de 5 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Selon le président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré, communément appelé Bavieux, la lutte contre le coronavirus interpelle tout le monde et personne ne doit rester en marge. Et ce geste, selon lui, à l'endroit de l'État malien, participe à cela. Surtout que le gouvernement a créé un fonds spécial pour lutter contre cette pandémie. Toujours au chapitre des dons, l'international malien Moussa Djenempo de Southampton en Angleterre a quant à lui offert un montant de 3 millions de francs CFA au ministère de la Santé du Mali. Siaka Traoré, Bamako pour VOA Afrique.
En Égypte, Ahmed Fati va quitter Al Ahly à la fin de la saison. Son club a décidé de ne pas lui offrir un nouveau contrat, lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière. Le défenseur des Diables Rouges a fait 12 ans avec le géant égyptien. C'est la vie et c'est l'une des plus difficiles décisions que je dois prendre dans ma carrière professionnelle de 20 ans, a écrit le joueur de 33 ans. Avec Al Ahly, Ahmed Fati compte 338 matchs. Il a marqué 24 buts et délivré 61 passes décisives. Parmi ses trophées remportés avec le national, on compte 3 Ligues des Champions CAF. D'autres joueurs comme Sherif Ektani et Oussama Achour ont annoncé leur départ du club. En Europe, la Ligue belge de football a recommandé de mettre fin définitivement au championnat en cours face à la pandémie de coronavirus et d'accepter le classement actuel comme classement final. Cette décision inédite doit être validée formellement le 15 avril. Le FC Bruges, club dans lequel figurent Crépin Diatta du Sénégal, Simon Deli de la Côte d'Ivoire et Perko Tao de l'Afrique du Sud, occupe la tête de la Pro League devant la Gantoise et Charleroi. La première place du classement qualifie son titulaire pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. La deuxième permet d'accéder au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. En Allemagne, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, estime que l'actuelle crise du coronavirus va stopper l'inflation malsaine des salaires et des indemnités de transfert. Le coronavirus et la crise qu'il provoque vont au moins conduire à stopper ce toujours plus cher, toujours plus vite, note le patron du Bayern dans un éditorial du magazine du club. Le Bayern Munich a été réticent ces dernières années à s'engager sur la voie des transferts faramineux. Son plus gros achat est le défenseur champion du monde français Lucas Hernandez, acquis en 2019 pour 80 millions d'euros. Auparavant, le Bayern n'avait jamais dépassé la barre des 41,5 millions dépensés en 2017 pour un autre français, Corentin Tolisso.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19. La ville de New York étant l'épicentre de la crise sanitaire dans le pays. Oumu Dakio, une habitante du quartier Red Hook, a arrêté le travail depuis une vingtaine de jours, conformément aux mesures de confinement instaurées à New York et dans plusieurs États. Mais depuis samedi, elle fait partie des nouveaux cas confirmés aux États-Unis. Elle nous raconte ici son cauchemar au micro d'Arzuma Compaoré.
Tout a commencé vendredi soir. J'ai commencé à ressentir des maux de tête. Après, j'avais froid. Après, j'avais mal à la gorge. Et la fièvre montait. Et j'avais des courbatures. Et c'est là qu'on est allé à l'urgence. Ils nous ont reçus. Ils ont demandé à mon mari de sortir et qu'il ne devait pas rester dans la salle d'attente. Et il est sorti aller rester dans la voiture. Quand ils ont pris ma température, j'étais à 108, qui est déjà trop. Et ils ont demandé à ce que je reste seule en quarantaine jusqu'à ce que les résultats du test sortent et que ça peut prendre 24 heures.
Pouvez-vous nous donner plus de détails sur la manière dont vous avez été prise en charge une fois sur place à l'hôpital Northern Dutchess Hospital?
Ils m'ont mis dans une salle en isolation. Le docteur qui est venu pour m'examiner, il était blindé. Je ne voyais même pratiquement pas ses yeux même. J'ai commencé à avoir peur. Pas d'infirmiers. Les gens m'appellent au téléphone que prendre des rendez-vous et des informations sur moi pour au téléphone. Il y a un truc comme coton-tige qu'on peut nettoyer les oreilles. C'est un truc genre comme ça qu'on a mis dans mes narines jusqu'au fond pour faire le prélèvement, les deux narines. Et sur place, on m'a donné deux comprimés que je ne rappelle pas du nom. Et après, ils ont prescrit Tylenol. C'est contre la fièvre et les douleurs que de prendre ça. On est rentré, mon mari est resté dans la voiture. Jusqu'au matin, moi, je suis restée seule dans la maison. Samedi maintenant, la nuit vers 23h, ils m'ont appelé. Moi, je dormais déjà. Ils ont appelé mon mari et lui dit que le test était positif. Waouh! Quand lui, il m'a annoncé, c'était difficile pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que avec tout ce qu'on voit à la télé, on dit qu'il n'y a pas de remède pour cela. C'est tout ce que je voyais autour de moi que j'avais peur.
Et qu'en est-il de votre entourage? Avez-vous pu informer vos proches?
Quand j'ai appris, je n'avais parlé à personne. Et parce que je pleurais beaucoup, que mon mari a informé à mes parents de me parler pour me rassurer. Et je me demandais où est-ce que j'ai pu avoir ça. Parce que quand ils ont dit que la maladie est déjà à New York, moi j'ai arrêté de travailler. Ça vaut 20 jours. Dans les supermarchés, parce que c'est là-bas que je partais le plus souvent.
Vous avez donc quitté l'hôpital sans un traitement précis, mais est-ce que vous prenez quand même des remèdes?
Ce que moi je prends comme remède, c'est les remèdes. Et le j'aime, miel, le citron, je prends ça beaucoup. Beaucoup de vitamine C, la vitamine D, et je bois que de l'eau chaude. Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas eu de mal. Ni maux de tête, ni fièvre, rien. J'ai même cuisiné moi-même aujourd'hui. J'ai bien mangé d'ailleurs. Sinon, depuis vendredi, je n'arrivais même pas à parler parce que j'avais un problème de respiration. Ça va mieux. Je pense que d'ici les deux semaines, je vais sortir victorieuse. Inch'Allah.
C'était Oumou Dakio à New York.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Togo, le gouvernement vient de prendre des mesures socio-économiques pour non seulement limiter la propagation du virus, mais aussi d'atténuer ses conséquences sur l'économie du pays. C'est dans une adresse à la nation, ce 1er avril, que le président togolais Faure Gnassingbé a fait l'annonce d'une série de mesures. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
C'est dans un discours de plus de 24 minutes que le président togolais Faure Gnassingbé a égrené quelques mesures prises pour faire face à la crise du coronavirus. Il a donc décrété un état d'urgence sanitaire dans le pays pour une période de 3 mois assortie d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Le chef de l'État togolais a décidé de prendre certaines mesures socio-économiques en vue de limiter l'impact du Covid-19 sur les citoyens et sur l'économie du pays. Nous écoutons Faure Gnassingbé.
Nous allons lancer un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise. Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous mettons en place des mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays.
À l'annonce de toutes ces mesures, les réactions ne se sont pas fait attendre.
Je reste dubitatif quant à la mise en œuvre des mesures socio-économiques annoncées. J'attends de voir avant de croire.
Le peuple togolais a besoin de choses concrètes. Oui, c'est vrai qu'à cause de la pandémie, il faut mettre des solutions adéquates là tout de suite.
Ce jeudi, 1048 prisonniers ont recouvré la liberté par grâce présidentielle, une manière de désengorger les prisons et ralentir la contamination. Pour veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, il a été également décidé de mettre en place une force spéciale anti-épidémie composée de 5000 agents des forces de défense et de sécurité. À la date du 2 avril, le Togo a enregistré 39 cas positifs de Covid-19, dont 20 cas actifs, 17 personnes totalement guéries et 2 décès. Kailoson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Nigeria, l'interdiction de tout mouvement a été décrétée depuis lundi pour au moins 14 jours dans les états de Lagos et d'Abuja. Certains Nigérians apportent leur soutien, comme l'artisan Bamik Bosse Adams à Lagos. Il recycle des tonneaux métalliques en unité mobile de lavage des mains en les équipant d'évier. Il cible les magasins, les restaurants et les écoles qui n'ont pas de dispositif de lavage des mains à leur entrée. Davantage d'explications avec Jacques Aristide.
Le premier cas de coronavirus a été répertorié au Nigeria à la fin de février. Bamik Bose Adam savait d'emblée que la pandémie allait impacter son entreprise et beaucoup d'autres dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En temps normal, comme source de revenus, il recycle des pneus de voitures pour en faire des meubles. Avec l'apparition du Covid-19, Bamik Bose Adam a constaté que des milliers de petites entreprises allaient avoir besoin d'unités de lavage des mains pour leurs clients.
J'ai vu que ce n'était pas le meilleur moment pour vendre mon produit, mes pneus. Et je me suis dit que ce que je pouvais faire avec ça pouvait aider la situation. Alors j'ai pris le premier fût pour le travailler et ça a marché. J'ai mis des photos en ligne et les gens ont commencé à passer des commandes.
Il fait tout manuellement. Ses seuls outils, un marteau et un ciseau qui aident à créer 2 ouvertures à l'arrière de chaque fût. L'une est une entrée d'eau et l'autre sert de sortie. Pour ceux qui n'ont pas d'eau courante, il a tout simplement conçu une sortie et un seau placé au-dessus du fût pour contenir l'eau. Bamik Bose Adam vend une unité entre 70 et 80 dollars américains. Il a reçu de nombreuses commandes après avoir affiché ses nouveaux produits sur les médias sociaux.
My target clients are Mes clients cibles sont les propriétaires de magasins, les restaurants, les écoles et les lieux où le public se rend pour se procurer de la nourriture et des médicaments. Et ces lieux ne sont pas disposés à installer une céramique près de la porte. Pourquoi ? Parce que cela la rendrait permanente. Mais dans ce cas, elle est mobile. Elle peut être déplacée à l'intérieur ou à l'extérieur.
Séoune Sangoulay se fait appeler la maman chef de Baby Grubs, une entreprise qui produit une gamme de céréales pour les enfants. Elle est l'une des premières clientes de Bamigbo Zadar.
Notre propre station de lavage des mains se trouve juste devant l'usine, pas pour les visiteurs, mais nous constatons maintenant que même nos visiteurs ont besoin de se laver les mains lorsqu'ils profitent de leur passage pour faire des achats également.
Un pari aussi ambitieux que risqué, le confinement semblait être respecté dès les premières heures dans une grande partie de Lagos, la mégapole de 20 millions d'habitants. Dans plusieurs quartiers de la capitale économique, tous les magasins sont fermés, les marchés abandonnés et les rues quasiment désertes, hormis quelques rares voitures bravant les checkpoints des forces de sécurité déployées le long des grands axes. Des mesures strictes pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus au Nigeria.
Après des années de guerre civile, le nouveau gouvernement d'unité du Soudan du Sud exhorte les citoyens à œuvrer à la réconciliation et à pardonner les auteurs de violences. Ces mesures sont-elles réalistes dans une nation profondément divisée? Sur cette question, un reportage de Chika Odoua, correspondant de VOA à Juba, la capitale sud-soudanaise, et c'est un récit de Nathalie Barche.
Junior Do, 31 ans, ne s'est pas remis de la perte de son cousin, tué alors qu'il combattait dans la guerre civile au Soudan du Sud. Il pleure aussi trois de ses frères et sœurs également morts et sa mère qui a été torturée par des rebelles, l'ayant plongée dans un réservoir d'eau.
Ma mère a été mise à l'eau, elle s'est évanouie quatre fois et c'est un souvenir qui l'empêche de revenir au Soudan du Sud. Elle déteste tellement.
Junior Do n'a pas vu sa mère depuis 2016. Il l'appelle souvent dans le camp de réfugiés où elle vit au Kenya. Mais elle a juré de ne jamais retourner dans son pays natal. Après avoir perdu tant de membres de sa famille à cause du conflit, il a gardé de l'amertume envers d'autres communautés ethniques de son pays.
La seule chose que j'avais à l'esprit était d'obtenir une arme à feu pour me venger.
Le peuple du Soudan du Sud a enduré des décennies de guerre. Les combats intenses ont laissé de profondes cicatrices au sein des populations. En février, le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar ont finalement formé un gouvernement d'unité après plus d'un an de retard dans les négociations. Pour Dr James Okuk, politologue à l'université de Juba, la question de la réconciliation est cruciale.
Nous espérons qu'ils seront à la hauteur, en particulier pour la réconciliation, qui demande vraiment du temps et exige beaucoup d'efforts. Les dirigeants ont impliqué les civils dans les querelles politiques, ce qui a généré des inimités entre les communautés. Et avec le retour de la paix, je pense qu'il est temps de réparer ces relations rompues.
Rétablir les relations est exactement ce que le comité gouvernemental essaie de faire, selon Francis Deng, membre du comité national du dialogue.
Un raisonnement est de pardonner et d'oublier. L'autre est que trop de mal a été fait. Des gens ont été victimes, des massacres ont eu lieu, des crimes ont été commis. Ici, vous arrivez à un autre point de vue. La perspective africaine est généralement d'essayer de se réconcilier, de compenser éventuellement et de ne pas en parler en termes de punition.
Le gouvernement fait la promotion de l'approche africaine à travers diverses initiatives. Le programme Power to Forgive, organisé par des églises sud-soudanaises, offre un service d'assistance téléphonique. Des gens de toutes parts, aux prises avec l'amertume et les traumatismes liés à la guerre, appellent pour parler avec un conseiller formé. Le christianisme est la religion principale du pays et les églises font un effort pour rétablir la paix, souligne le pasteur Emmanuel du Conseil des églises du Soudan du Sud.
C'est le rôle que joue l'église, revenir vers Dieu, se réconcilier avec soi-même et avec les autres.
Dans un quartier de Juba, des jeunes militants organisent un camp de la paix qui offre un espace à la jeunesse souhaitant s'exprimer sur les douleurs de la guerre. Le directeur Samuel Steven présente présente ce concept comme un lieu de rapprochement intercommunautaire.
Le camp de la paix rassemble les gens pour être en mesure de créer des relations à un niveau personnel avec quelqu'un d'une certaine communauté que vous avez toujours considéré comme un ennemi.
Les militants espèrent que ces initiatives apporteront des changements positifs pour reconstruire une nation déchirée par une longue guerre.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Georges-Léonard Sagnon, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.